Vous êtes sur RTL.
Allô maman bobo.
RTL.
Allô maman bobo.
Ça va beaucoup mieux, l'hebdo, avec Michel Simès.
Chers amis des DM du dimanche matin, c'est un plaisir de vous retrouver comme toutes les semaines avec la petite bande de l'hebdo et Mastrac, Christophe Brun et Patrice Romden. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Michel.
Emma. Chose promise, chose due.
Oui, je m'intéresse aujourd'hui aux interactions entre les médicaments et notre alimentation. Tout ça, évidemment, pour vous éviter des situations pénibles et vous garder en bonne santé.
Patrice.
Ce matin, on parle d'un homme dont il est beaucoup question cette année. C'est en effet le bicentenaire de sa mort, Napoléon Bonaparte. Alors d'aucuns diront, au regard de ses nombreuses conquêtes, qu'il avait la santé. Eh bien, pas tant que ça.
Christophe.
Du ventre plat au ventre rond, il y a eu l'espace d'un frisson, un bref éclair et dans ton corps, un bruit d'orage.
C'est une magnifique chanson de Serge Lama.
J'adore Serge Lama. Voilà. Vous en foutez, mais j'adore.
Non. Maintenant, je m'en fous pas parce que j'adore aussi. Voilà. Et c'est une chanson qui s'appelle Du ventre plat au ventre rond. Et ce sera notre teaser ce matin pour vous mettre sur la voie de ce dont nous allons parler dans quelques minutes. Ça s'appelle Le Vacuum. Vous connaissez ?
Non.
Le vacuum, vous connaissez pas, non. Mais ça tombe non. Bien, on va vous dire ça vers 10h moins le quart à peu près, 10h moins 10.
Très bien, on va apprendre quelque chose enfin.
Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo.
Alors Emma, notre corps est une véritable usine chimique et avec vous, on va voir les...
C'est un relation. Oui, c'est pas faux, il n'a pas tort, je suis obligé de défendre.
Ça commence bien. Je vais recommencer Emma pour présenter votre sujet de façon sérieuse. Donc nous disions que c'était en dehors d'une usine à gaz, une usine chimique, et on va voir les interactions qui existent entre ce que l'on mange et les médicaments que l'on prend.
Alors l'interaction, c'est quand l'effet d'un médicament est modifié par un autre produit que l'on prend. L'action peut être diminuée, multiplié, et il y a aussi certaines interactions qui ont tendance à augmenter le risque d'effets indésirables.
Alors, c'est là mon affaire de chimie, des molécules qui se rencontrent. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas prévoir toutes les interactions, mais certaines sont quand même aujourd'hui bien connues, comme celles qui concernent, et on en avait parlé la semaine dernière, le pamplemousse.
Oui, le pamplemousse qui agit sur certaines enzymes du corps humain. Or, ces enzymes, elles ont la propriété de transformer le médicament au niveau du foie et de l'intestin. Ensuite, il y a deux possibilités. Soit l'action du médicament est diminuée, soit il s'élimine moins bien, et là, ça peut donner lieu justement à des effets secondaires.
Par exemple, avec les statines, il y a un risque d'atteinte musculaire. Avec certains immunosuppresseurs, c'est un risque d'atteinte rénale.
Alors, de manière générale, le conseil donné par l'assurance maladie, c'est de ne pas boire de jus de pamplemousse dans les 2 heures qui précèdent ou qui suivent la prise d'un médicament. Elle conseille aussi de limiter sa consommation à moins d'un quart de litre par jour.
Voilà, on va passer à une autre boisson maintenant, le thé, et particulièrement le thé vert.
Oui, qui a tendance à empêcher l'absorption du fer par l'organisme quand celui-ci est prescrit par voie orale. Alors, je pense notamment aux femmes enceintes. Et puisqu'on parle de boissons, il y a 2-3 choses à savoir sur la caféine. Vous savez que sa consommation a tendance à nous booster, mais la prise de certains antibiotiques influe sur son élimination. Donc elle a tendance à s'accumuler dans l'organisme avec des risques de nausées et de troubles cardiaques, donc à éviter. Comme avec certains antihistaminiques. Et je vous rappelle que la caféine, en plus de la trouver dans le café, elle est présente dans le thé et dans certains sodas.
Alors on va passer à table maintenant pour faire la revue des aliments à éviter en fonction des traitements.
Bon, alors, je ne vais pas pouvoir tous vous les citer, mais en gros, voilà, on évite les aliments riches en vitamine K. Alors ça, c'est ce qu'on trouve dans le chou, le brocoli, les abats, les épinards, le persil. Donc, on évite ces aliments en cas de traitement anticoagulant parce que ça diminue l'efficacité des médicaments. On évite les agrumes avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens parce qu'ils peuvent provoquer des brûlures d'estomac et du reflux. Attention à la réglisse qui augmente la pression artérielle, donc à éviter en cas de traitement contre l'hypertension.
Ah bah vous savez que quand on est étudiant en médecine, c'est un truc qu'on apprend ça, parce qu'il y a des gens qui sont tellement accros à la réglisse qu'ils finissent par avoir une hypertension, vous cherchez toutes les maladies possibles et tout, et finalement, c'est la réglisse qui était responsable.
Et alors, je ne sais pas si on vous parle des gens qui sont accros au curcuma, mais ça peut augmenter l'action d'anti-diabétiques pris par voie orale, et donc ça augmente le risque de l'hypoglycémie.
On parle des aliments, mais ce qu'on utilise en complément alimentaire, et c'est très à la mode, hein, n'est pas dénué de risque non plus.
Oui, prenez le millepertuis, c'est une plante qui est utilisée contre certains états anxieux et dépressifs. Elle peut diminuer l'activité de plusieurs molécules comme les anticoagulants, la pilule, certains antidépresseurs et des traitements contre le VIH. Il y a aussi des pincettes à prendre avec la taurine et les acides oméga-3. Donc, je vous donne ici les grandes interactions connues, mais en fait, il en existe plein. Et donc, je vous engage à bien lire la notice de votre médicament pour savoir s'il fait l'objet d'interactions, ce que ce sera marqué dessus. Et évidemment, de parler avec votre médecin ou votre pharmacien, notamment quand vous décidez de prendre soin de vous ou de vos automédicaments.
Merci beaucoup Emma. Effectivement, c'est un sujet dont on parle pas souvent, cette interaction avec tout ce qu'on mange et nos médicaments. Qui a de la petite brève de l'insolite, Patrice ?
Bien, figurez-vous que j'ai feuilleté ma collection de Dr Good, hein, vous savez, notre partenaire, et je suis tombé sur une astuce qui nous est donnée par une lectrice. Elle a une passion, le jardinage, mais elle est allergique aux gants. Et alors, la solution qu'elle a trouvée, avant de jardiner, elle gratte un savon de Marseille avec ses ongles. Le savon se cale sous les ongles et les bactéries n'ont donc pas accès à cet endroit sensible. Après la séance de jardinage, elle n'a plus qu'à se laver les mains. Il y a une question qui demeure, c'est comment peut-on être allergique aux gants ?
Eh bien, sûrement à cause du latex.
Ah, très bien.
Parce qu'il y a des allergies au latex qui posent beaucoup de problèmes, bien évidemment aux hommes notamment qui sont allergiques, parce que les préservatifs sont souvent en latex. Et les chirurgiens qui
J'aime
sont...
J'aime bien le souvent.
Bah, ouais, ouais. Et les chirurgiens qui sont allergiques au latex ont des problèmes avec les gants chirurgicaux, qui le sont également. Et il y a des gants spécialement conçus pour les chirurgiens allergiques au latex.
Et des préservatifs sans latex pour les personnes allergiques.
Et des préservatifs sans latex également. Puisque vous parliez de Dr Good avec qui nous sommes partenaires, vous avez le numéro qui vient de sortir et qui est en kiosque actuellement avec en couverture « Bien manger, c'est la santé » justement en rapport avec le sujet d'Emma. Et moi aussi j'ai une petite question.
Ah, attention.
Est-ce que vous pensez que le sel a un rapport avec notre immunité ?
Le sel.
Si vous posez la question, c'est que oui.
Voilà, si je pose la question, c'est que oui, et vous l'apprendrez effectivement dans le numéro de Dr Good. Effectivement, il y a une étude qui a été publiée dans la revue Science Translational Medicine. C'était une revue intéressante et scientifique, et qui montre qu'un excès de sel est mauvais pour notre immunité. Et Dieu sait si on parle de notre immunité depuis quelques mois avec la pandémie. Donc, si vous voulez avoir un système immunitaire plus efficace, bah, il faut limiter l'apport de sel, qui est déjà pas très bon sur le plan cardiovasculaire. Tout ça, c'est dans le nouveau numéro de Dr Good. Christophe.
Oui, moi j'ai une petite phrase de patiente, le cardiologue lui demande si elle a des problèmes cardiaques, elle dit oui, j'ai un souffle au cœur, le médecin dit vous a-t-on dit de quelle anomalie il s'agissait ? Elle dit oui, j'ai une fuite à la vulve. Elle voulait dire la valvule. La valvule.
Pas mal, une fuite à la vulve, c'est déjà beaucoup plus rare, bien que ça puisse exister.
Tout à fait.
Enfin, ça n'a rien à voir avec vous, mais
je vous remercie de le préciser. Quelle est la partie du corps la moins riche en eau et donc la plus solide ?
Les ongles ?
Non.
Les os ?
Non,
c'est
il y a de
l'ivoire des dents, qui ne contient que 1% d'eau et le plus riche en eau, c'est le plasma sanguin, 90%.
J'allais dire, c'est le sang.
Tout à fait. Chauffé. Pour comparaison, d'après le CNRS, il y en a plus de 22% dans les os et 75% dans les muscles. De manière générale, on considère que 65% d'un organisme humain est constitué d'eau, soit 45 litres quand même pour un adulte qui pèse 70 kilos.
Et 70% dans le cerveau, ça rend modeste. Merci pour ces informations. On se retrouve dans quelques instants pour la partie 2 de l'émission avec Patrice qui va nous parler de Napoléon Bonaparte.
RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
À l'école, quand j'étais gamin, mon nom sonnait pas bien français. J'étais la risée des copains, ils m'appelaient la paillonnée. Mal fringué dans ma peau pas bien, j'étais bande à part des boudeurs. Je bouffais les mots des bouquins, j'avais l'âme et la tête ailleurs. Napoléoné,
tout le monde a reconnu Serge Lama, le bicentenaire de la mort de Napoléon. Cette année, on n'allait pas se priver de feuilleter le carnet de santé de l'empereur. Et le moins qu'on puisse dire, Patrice, c'est qu'il est bien rempli, ce carnet.
Oui, il y a un contraste entre, d'un côté, le surpuissant Napoléon, empereur conquérant, auréolé d'une gloire qui le mènera à dominer un temps l'Europe, et puis, de l'autre, le petit soldat corse à la santé fragile qui, raisonnablement, aurait dû passer sa vie à se ménager plutôt qu'à guerroyer. Parce qu'à y regarder de plus près, eh bien, la maladie fut la plus fidèle des compagnes de Bonaparte. Le soldat, il a connu le paludisme. Le consul, il avait systématiquement mauvaise mine. Le héros de la campagne d'Égypte, il revient fiévreux, le teint jaune comme la paille. Ajoutez à cela de fréquents points de côté et une toux chronique. Il n'en faut pas plus pour que le très réputé docteur Corvisart lui diagnostique, sans plus de détails à l'époque, une infection des organes respiratoires.
Alors, bien sûr, Napoléon connaîtra quelques périodes de répit, souvent attribuées au grand air et à l'exercice. Paradoxalement, la guerre, ça conserve, mais les choses vont sérieusement se dégrader à partir de 1808, très exactement. Et cette fois, c'est l'estomac qui flanche.
Oui, le docteur Corvisart suggère à l'empereur de manger un peu moins vite, mais rien n'y fait. Les crises se répètent, leur violence est décuplée, Napoléon grossit. Et les 6 années d'exil à Sainte-Hélène de 1815 à 1821 ne font qu'accentuer le déclin.
Et Napoléon meurt en 1821. Au fait, de quoi est-il mort ? Parce que près de 2 siècles après que l'empereur a poussé son dernier souffle, c'est pas très limpide.
C'est-à-dire qu'il y a 2 thèses qui circulent toujours, l'empoisonnement et le cancer. Alors, ceux qui penchent pour la première thèse, ils sont de moins en moins nombreux, parlent d'un empoisonnement progressif à l'arsenic, après tout, on en a bien retrouvé dans un supposé reste de ses cheveux, de l'arsenic. Et alors, plus nombreux sont ceux qui parient sur un cancer de l'estomac, qui rappelle que Napoléon a considérablement maigri dans les derniers mois de sa vie. Puis en outre, l'autopsie a révélé une lésion d'environ 10 cm au niveau de l'estomac de l'empereur. Bon, cela dit, le père du code civil peut très bien avoir été empoisonné un petit peu, tout en étant victime d'un cancer.
Bien évidemment, on peut avoir les deux, mon cher Patrice. Merci beaucoup. Et on va accueillir notre invité qui exceptionnellement est en studio aujourd'hui, Philippe Gueluc, bonjour.
Bonjour les amis.
Vous êtes je crois que vous êtes le premier invité à être en studio. D'habitude, on prend nos invités par téléphone, mais comme il se trouve que vous étiez dans la maison, voilà. Eh ben, on vous a proposé de venir.
On aurait pu utiliser une ligne intérieure, mais...
Mais on n'a pas voulu. C'est beaucoup plus sympa pour nous de vous avoir en studio, Philippe. On va parler bien évidemment du chat dans quelques instants, mais là, on va continuer un petit peu sur le thème du cancer. Parce qu'à l'époque de Napoléon, on ne connaissait pas grand-chose en cancérologie, surtout on n'avait pas les traitements actuels, bien évidemment. Il y a en gros 2 types de cancers. Ceux qui arrivent, on va dire spontanément, faute à pas de chance. Une cellule qui s'emballe et qui échappe à notre système immunitaire avant de former une tumeur. Alors là, le défi, c'est de la dépister le plus tôt possible pour la traiter et guérir. Et à côté, il y a un deuxième type de cancer, ceux qui apparaissent parce que l'organisme a été soumis à une agression, un facteur cancérogène, comme on dit, le plus connu, c'est le tabac. Et l'une des questions que se pose la médecine, c'est de savoir qui est susceptible de développer un cancer. Est-ce qu'il y a un profil génétique particulier pour tel ou tel type de cancer? Professeur Dominique Stoppa-Lyonnais, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du service de génétique à l'Institut Curie de l'Université de Paris. Alors d'abord, combien connaît-on de cancers liés à des profils génétiques particuliers?
Alors, je pense que là, la question, une autre façon de la poser, c'est quels sont les cancers pour lesquels il y a une prédisposition génétique?
Absolument.
Héréditaire, c'est-à-dire quels sont les cancers pour lesquels certaines personnes ont un risque beaucoup plus élevé que le risque moyen dans la population générale. En fait, ça dépend des localisations tumorales. Par exemple, pour le cancer du sein, qui est l'un des plus fréquents, on retient que c'est à peu près 5% des cas. Pour les cancers de l'ovaire, c'est 10 à 15%. Certains cancers de l'enfant, c'est 50%. Pour le cancer du poumon, c'est extrêmement faible. C'est probablement, il y a quelques situations exceptionnelles, c'est entre 1 pour 1000 et moins de 1%.
Alors ça, c'est pour les cancers qui ont un profil génétique particulier. Mais on va parler de ce qui fait fantasmer un petit peu et qui va peut-être vous énerver, mais ce qu'on appelle les gènes de prédisposition. On va rester sur le cancer du poumon, par exemple. Est-ce qu'on peut dire que si une personne fume et qu'elle n'a pas le ou les gènes de prédisposition au cancer du poumon, elle a plus ou moins de chances d'y échapper que celle qui est porteuse du gène?
Justement, ce que je veux dire, c'est que n'y a pas de gène de prédisposition au cancer du poumon qui ait été identifié. Alors, il y a des situations très exceptionnelles. Il y a un gène qui s'appelle TP53, c'est à peu près une personne sur 40 000, qui peut avoir un risque de cancer du poumon un peu plus élevé. Mais le cancer du poumon, c'est d'abord c'est le tabac, comme vous l'avez dit. Alors ensuite, néanmoins, soyons, je dirais, prudents. Et on est en train aujourd'hui d'identifier, mis à part des facteurs génétiques, on peut qualifier d'héréditaires, parce que transmis souvent de l'un des deux parents à un enfant, il y a des facteurs de susceptibilité, qui sont une combinaison de facteurs de susceptibilité qui peuvent peut-être augmenter le risque tumoral. Et il y a probablement, comment dire, on voit bien que les fumeurs sont inégaux devant le risque de cancer du poumon. D'ailleurs, les vieux fumeurs font une publicité, une contre-publicité terrible pour le tabac quand ils ne sont pas atteints. Mais aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de facteur de susceptibilité identifié. Et quand bien même il y en aurait, les fumeurs resteraient quand même à haut risque de cancer et d'autres maladies, notamment cardiovasculaires, du fait de l'exposition au tabac. Si vous le permettez, en fait, voilà, j'ai pas cité dans les formes héréditaires de cancer les cancers du côlon et les cancers de l'estomac. Parce que pour revenir à Napoléon, on retient qu'effectivement il a eu un cancer du côlon. Il faut avoir en tête que son père a eu probablement un cancer du côlon dont il est mort très jeune, à l'âge de 38 ans. Donc on peut s'interroger sur l'existence d'un facteur génétique de risque. Il y a un syndrome très particulier qui s'appelle syndrome de Lynch et qui autrefois était associé plutôt à des cancers de l'estomac et qui aujourd'hui, du fait des modifications de notre mode de vie, sont plutôt des cancers du côlon. Voilà, donc c'est aussi une hypothèse qu'on peut faire pour Napoléon.
Alors, on va pas parler de gènes de prédisposition, j'ai bien compris, on va parler d'une certaine susceptibilité. Moi, je vais faire un peu, je vais vous poser une question de science-fiction qui va sûrement vous énerver, puisque ça énerve beaucoup les scientifiques. Est-ce qu'un jour, on pourrait imaginer avoir une sorte de carte d'identité génétique sur laquelle on ne nous dira pas vous avez 100% d'avoir tel type de cancer, ça j'ai bien compris, mais pour lesquelles on pourrait avoir un peu plus de risques et qui pourrait changer un peu nos habitudes de vie pour éviter justement de rajouter des facteurs qui pourraient faire développer un cancer.
Alors, oui, c'est pas complètement de la science-fiction. Tous les efforts de recherche tendent à mieux connaître notre génome. On a toujours, voilà, c'est inhérent à notre humanité que d'essayer de prévoir l'avenir. Et je pense qu'on va aller vers l'identification, voilà, de facteurs de susceptibilité. On va mieux connaître nos risques individuels, mais il faudra toujours prendre en compte que nous sommes à la fois la résultante de nos gènes, au sens très large du terme, et puis de notre interaction avec l'environnement. Mais voilà, ce que je ne dirais pas, c'est qu'on pourrait avoir une espèce de passeport pour fumer.
Voilà. Oui, ben c'est ça, oui, bien sûr. D'accord. C'est-à-dire, un jour, on aura peut-être un passeport vaccinal, mais pas pour fumer. Juste un dernier mot très rapidement, professeur. Si je vous dis que l'activité physique permet d'éviter certains cancers...
C'est vrai, c'est vrai. Ça fait partie d'une des mesures des cancers évitables. L'activité physique, y compris l'activité physique chez des personnes qui ont été traitées pour un cancer, eh bien, on a montré, notamment pour les cancers du sein, que ça avait un impact sur la diminution du risque de récidive. Donc, l'activité physique, outre le fait que ça rend la vie plus agréable, on est mieux, ça a véritablement un impact sur la santé, en particulier sur les risques de cancer.
Et voilà, une raison de plus pour bouger. Merci beaucoup, professeur Dominique Stoppa-Lyonnais. Je rappelle que vous êtes responsable du service de génétique à l'Institut Curie, Université de Paris. Merci beaucoup d'avoir apporté de l'eau à notre moulin, nous qui essayons de faire bouger les Français. On se retrouve dans quelques instants après une petite pause pour parler avec Philippe Gueluc. On va voir s'il fait de l'activité physique, lui.
Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo. RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'hebdo.
Retour sur l'hebdo. Alors tout à l'heure, Patrice, vous nous avez parlé du père du code civil. Oui. C'est bien ça, à propos de Napoléon. Là, on va être avec le papa du chat, Philippe Gueuluc, qui est avec nous.
C'est pas pareil.
C'est pas pareil. Il est en train de se toucher le...
Je mets la main dans le gilet, comme l'autre.
Oui, comme
il y avait un très joli dessin de ciné où Napoléon se mettait la main dans la braguette.
Ça devait lui arriver. Ça devait lui arriver de temps
ça
en
nous
temps.
Ça arrive tous.
Bien sûr. Oui,
Philippe, on a entendu parler avec le professeur Dominique Stoppa-Lyonnais de l'intérêt de l'activité physique dans la prévention de certains cancers. Est-ce que vous êtes un actif de ce côté-là?
Alors, je bouge beaucoup. J'essaie de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, mais j'ai un pied qui est fichu depuis 30 ans, depuis que je suis tombé dans le toit. Bref, je ne vais pas vous raconter ça en détail. Donc, je dois me cantonner à certains exercices de gymnastique et de la natation que je pratique régulièrement.
Cela dit, la sculpture, c'est de l'activité physique un peu, non?
C'est du modelage. C'est-à-dire, si vous voulez, dans mon cas, je ne prends pas un bloc de marbre comme le faisait Michel-Ange pour sculpter un chat dans le marbre. C'est du modelage, oui, c'est physique, mais pas tant que ça. Mais au moins, ici, sur le sujet dont nous allons nous entretenir, au moins je fais bouger les gens.
Oui, vous les faites marcher. Et vous allez le faire marcher aux Champs-Élysées. 20 sculptures monumentales du chat sont exposées sur les Champs-Élysées jusqu'au 9 juin. Comment ça va votre périmètre crânien là, quand on est comme vous, dessinateur, sculpteur, et qu'on se retrouve avec 20 sculptures sur la plus belle avenue du monde, ça fait pas vaciller un peu?
Mais un peu, c'est-à-dire ça crée une certaine émotion. Surtout qu'on a inauguré l'exposition avec mes enfants et petits-enfants, et que c'est les petits-enfants qui ont coupé le ruban. Et j'ai déclaré l'expo de Papou ouverte. Et ils étaient tout fous. Ils étaient tout fous. Oh là là. Et puis, non, c'est sûr qu'on n'est plus dans la réalité. Parce que c'est la plus belle avenue du monde. J'avais le choix, j'aurais pu commencer par la plus moche. Et j'ai pu choisir la plus belle. Je dis, ce serait bête de...
Non mais ça doit être impressionnant quand même.
Mais oui. Évidemment. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est la réaction des gens. Parce que dès le lendemain de l'inauguration, il y avait beaucoup de monde, les gens étaient, il y avait des distances, les masques et tout. Et tout le monde disait merci, merci, merci de nous apporter de la joie. On en manque tellement pour le moment.
Et puis une occasion d'aller se promener. Comment vous avez vécu toute cette épidémie, toute cette période ?
Je l'avais vu venir. En décembre, quand ce docteur à Wuhan a parlé d'un virus, je me suis dit aïe, ça va me retomber sur la gueule. Parce que l'expo, je devais la proposer l'année passée. C'était normalement avril 2020. Et comme vous le savez, il y a eu fermeture complète de tout. Donc je me suis dit, ça c'est juste pour m'emmerder. Et puis j'ai compris que non, il y avait aussi 6 milliards et demi d'autres êtres humains qui allaient être un peu contrariés dans leur vie courante. J'ai relativisé, donc on a remis le projet dans le tiroir et nous nous sommes confinés, de façon civique, de façon très stricte. L'année passée, on avait très très peur, même avec les enfants. Mon fils faisait des courses pour nous, il nous les apportait, il les déposait et puis reculait pour qu'on s'approche pas à moins d'un mètre.
Et vous avez eu un contact avec des fans du chat et de Philippe Gueuluc qui étaient à l'hôpital, et notamment quelqu'un qui vous a écrit, ça vous a beaucoup touché?
Beaucoup. C'est-à-dire que pendant cette période de confinement en Belgique, à Bruxelles, je me suis dit que moi je me considérais comme un privilégié. On habite dans un bel espace et on est deux, ma femme et moi, donc c'était quelque part un petit cadeau de la vie. Puis j'ai pensé à tous ceux qui en bavaient sanitairement, financièrement, l'angoisse psychologiquement. Et j'ai commencé à faire des dessins de solidarité en soutien au monde des soignants. J'ai envoyé des dessins à plein de services hospitaliers pour dire aux infirmières merci de faire ça, vous êtes génial, faudrait qu'on vous augmente, etc. J'en ai beaucoup parlé dans les médias. Je me suis aussi beaucoup engagé avec mon amie Kat Janine sur le sujet de la violence faite aux femmes et aux enfants. Pendant cette période de confinement, ça devenait sordide. Et j'ai essayé de transformer cette période de confinement en période de solidarité vers les autres. J'ai eu des messages filmés avec des malades qui me disaient, et puis je leur répondais, je leur envoyais un dessin, et il y en a un qui m'a dit, mais vous m'avez aidé à guérir. Comme si, mon dessin et mon message filmé lui a donné une espèce de force qui lui a permis de revenir. Alors je ne dis pas que je suis le médicament ni le remède à la maladie.
Il faudrait que vous alliez dans tous les services d'ORIA.
Mais je pense que je pourrais, peut-être avec l'imposition des mains, après le gel hydroalcoolique, bien sûr. Et, non, mais voilà.
Mais c'est fou parce que ça nous dit quand même aussi l'importance de l'art et du fait de pouvoir à un moment donné lâcher cette situation si compliquée parce que ça nous emporte, parce que c'est porteur d'espoir et que finalement c'est ça qui nous maintient aussi en vie.
Et je pense, je ne sais pas si vous avez un spécialiste en la matière au téléphone, mais que le rire a un vrai effet cathartique.
Et on en parle souvent.
Ouais.
Ouais. Patrice.
Le chat, Philippe, est capable de faire preuve d'humour noir. Est-ce que vous avez le sentiment, depuis quelques mois, d'avoir mis la pédale douce sur l'humour noir parce que la situation était un petit peu plus tendue qu'elle l'était avant ?
L'année dernière, je me suis effectivement empêché de faire des vannes sordides sur la situation. Parce que je me dis, je ne vais pas ajouter de la noirceur à la noirceur. C'est vrai, quand tout va bien, on aime rire des choses grinçantes. Quand tout va mal, c'est un petit peu plus compliqué, donc j'ai évité. Là, je reprends, dans Ciné Mensuel, là, je publie un dessin où c'est l'impossible choix des soignants, et puis il y a quatre civières devant eux, et il y a deux soignants, et qui font Amstramgram, piqué, piqué, collégram, et l'autre ajoute bourré, bourré, ratata. Bon, c'est monstrueux, mais c'est, hélas, la réalité.
Ouais,
et ça vous fait rire. Donc, comme quoi, on peut rire de choses noires, grinçantes, même quand ça va pas bien.
Christophe.
Oui, dans le bouquin dont Michel va parler dans quelques secondes.
Le chat déambule, j'en parle tout de suite. Exactement. Le chat déambule chez Casterman, où vous avez notamment une. Alors vous avez des photos même de Philippe Gueluc en train de travailler. Oui. Vous avez des dessins où il n'y a pas toujours le chat, par exemple celui-là, le casseur de couilles, qui est un monsieur qui est sur une statue.
Mais il n'y a pas que ça. Et vous relevez des phrases de certains grands auteurs, certains grands artistes, et notamment celle de Marcel Duchamp qui dit « Le grand ennemi de l'art, c'est le bon goût ouais. ». Est-ce que vous considérez que le chat peut être de mauvais goût ?
Oh oui.
De temps en temps. Bien il sûr. Revendique d'ailleurs.
Non, mais j'adore ça. J'adore. En fait, avec le chat, je me suis créé un instrument qui me permet de partir dans tous les sens. Mmh. De faire des choses qui soient solidaires, qui soient touchantes. Quand il dit « Le bonheur appartient à celui qui en donne aux autres », bah, ça fait fondre le cœur de tout le monde. Et puis, il dit des choses absolument terribles, noires, grinçantes. Et on le prend bien, on comprend que c'est du second degré parce que c'est le chat.
Il est très humain ce chat en fait.
Je crois que c'est un. Ouais. Oui, mais d'ailleurs aujourd'hui c'est pas l'anniversaire de la mort ou de la naissance de La Fontaine et le chat est un petit peu un fabuliste affable.
Donc il y a l'exposition, donc les 20 sculptures qui sont exposées à Paris en ce moment jusqu'au mois de juin sur les Champs-Élysées, qui seront exposées à Bordeaux, Caen et dans une dizaine de villes françaises et européennes, et ça se finira bien sûr à Bruxelles. Au moment de l'inauguration du musée du chat et du dessin d'humour, et puis votre album chez Casterman, ouais. Le chat déambule. Vous restez avec nous, Philippe, parce que il y a la partie jeu maintenant.
C'était pour ça que j'étais venu. Ben, et j'attendais.
Et nous allons prendre en ligne Alexandre. Bonjour.
Bonjour.
Alexandre, 38 ans, directeur commercial qui habite dans la région parisienne à Arcueil. Alors le principe du jeu, c'est très simple. Il va y avoir une anecdote médicale. Il va y avoir trois versions. Deux seront fausses et une sera exacte. Et je demanderai à Philippe Gueluc de vous aider éventuellement si vous hésitez. Est-ce que vous cuisinez, Alexandre ?
Oui, beaucoup.
Beaucoup, et ben vous allez avoir, si vous gagnez, un robot multifonction Magimix qui permet de tout faire sans rien faire, finalement. Voilà, vous mettez tout dedans, et puis vous revenez, c'est prêt.
C'est comme anciennement la femme au foyer.
Exactement. C'est pas une épouse.
Très bien, hashtag MeToo. Alors...
J'ai dit anciennement.
Oui, bien sûr.
Jusqu'à la semaine dernière, donc Philippe a précisé.
Alors, ça n'est pas une question musicale, bien qu'on ait entendu Bob Marley, mais une question médicale. Le roi du reggae nous a quitté en 1981 à l'âge de 36 ans. Mais nous savons tous que sa musique lui survivra longtemps. En 1977, Bob Marley souffre d'une très vilaine blessure au pied. Impossible de contenir l'infection. Il consulte un médecin londonien qui lui dit qu'il n'y a qu'une seule solution, l'amputation de l'orteil. Bob Marley refuse. Pour quelle raison ? version de Christophe.
Donc la bonne version. Donc alors Bob Marley, tout le monde le sait, était un passionné de foot. Il regardait, il connaissait, il commentait et surtout il jouait très souvent au foot. Quand le médecin londonien lui a parlé d'amputation, il lui a répondu qu'il n'était pas question de lui couper l'orteil, le pied, quoi que ce soit, parce qu'il risquait de perdre, je le cite, toutes les sensations sur lesquelles reposait son plaisir de jouer.
Eh ben dis donc.
Emma.
Un peu léger, jeune homme. Bob Marley, c'était un adepte du rastafarisme, qui est un mouvement politique et religieux qui considère que la médecine occidentale n'est pas pertinente parce qu'un corps doit conserver son intégrité, quoi qu'il arrive. Et c'est d'ailleurs pour ça que Bob Marley rechignait jusqu'à se couper les cheveux. Donc vous imaginez bien que quand on lui a parlé de se séparer d'un orteil, bon bah il a décliné la proposition parce que ça ne cadrait pas du tout avec ses croyances.
Patrice,
n'importe quoi.
Alors, toute sa vie, Bob Marley a chanté l'égalité. Il en avait fait un principe qui régissait tous les aspects donc de sa vie. Et aussi surréaliste que cela puisse paraître. C'est à ce titre, l'égalité, que lorsque le médecin lui a parlé d'amputation de son orteil, il a demandé à ce que son autre orteil soit aussi amputé. Attendez, égalité un jour, égalité toujours. Le médecin a refusé pour d'évidentes questions éthiques et du coup, il n'y a eu aucune amputation.
Philippe, qu'est-ce que vous en pensez?
Mais moi, je pense qu'aucune de ces propositions n'est exacte, car je connais la bonne réponse, c'est que Bob Marley, pas sur scène où il jouait en playback, mais en studio, jouait de la guitare avec ses orteils. Et donc, il lui devenait impossible d'exécuter ses plus beaux morceaux.
On va Alexandre, procéder par élimination.
Oui, Alexandre, vous avez donc
quatre
possibilités. Ouais. Rien n'est vrai.
Mais il y en a une, elle vient de sortir, hein, franchement.
Ça s'appelle la guitare à Fifi.
Celle de Christophe qui parle de football, celle d'Emma qui parle du rastafarisme, et celle de Patrice qui parle d'égalité, qu'il voulait qu'on coupe l'orteil de l'autre pied parce que sinon c'était pas équitable. On peut faire par élimination si vous voulez.
Moi, je dirais que, à mon avis, ça, il faisait preuve d'un peu plus de bon sens quand même que de sauver un orteil pour jouer au foot.
Ouais.
Je partirais quand même sur la version d'Emma.
Bravo Alexandre.
Bravo Alexandre.
Donc j'ai plus besoin de cuisiner.
Voilà. vous allez recevoir ce robot multifonction Magimix pour tout cuisiner, tout faire les petits plats. Le compact système 3200XL. Emma, explications quand même.
Et oui, c'est bien au nom du rastafarisme que Bob Marley a refusé l'amputation de son orteil. Hein. Le rastafarisme, ça vient d'Éthiopie. Haïlé Sélassié, l'empereur d'Éthiopie en 1930. En est considéré comme le guide spirituel. Après, il faut se faire une raison, le rastafarisme a aussi ses limites. Après avoir refusé l'amputation, Bob Marley s'en est remis aux soins d'un herboriste rasta. Et pendant ce temps, le mal a continué à gagner du terrain. Donc le roi du reggae souffrait d'un mélanome et le cancer a fini par gagner plusieurs de ses organes.
Merci beaucoup Emma. Bravo Alexandre et merci d'avoir joué avec nous. Vous recevrez donc ce robot multifonction Magimix.
Merci,
à bientôt. Au revoir. Dans la dernière partie de l'émission, on va parler avec Coach Cricri vous connaissez le vacuum, Philippe?
Non,
quoi? Le vacuum.
Non, je connais les toilettes sèches, mais ouais. Non.
Ouais, bah, c'est pas loin.
C'est pas loin. Restez avec nous. Vous allez voir.
RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. L'hebdo. Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo.
Et c'est la partie 4 de l'hebdo avec Coach Cricri et avec notre invité Philippe Gueluc est avec nous et qui est un grand sportif d'une jambe.
Oui. et merci d'avoir dit la partie 4. Parce que vous avez dit la partie 4.
Oui, oui. Ah, j'ai pas
c'est
fait
subliminal.
Le
oui, c'est beau. Bravo.
Il parle très bien anglais.
La partie chat avec Coach Cricri. Alors, comment vous dites?
Le vacuum. Vacuum, il y a...
C'est du latin.
C'est du latin.
Alors Philippe, on dit comment?
En latin, on dit vacuum.
Voilà.
Vacuum. Mais vacuum, en latin de cuisine. Ouais. Depuis que je sais que vous êtes adepte du robot mix, c'est celui que vous pratiquez.
Absolument. Moi, je suis plutôt dans le grec ancien.
Pour moi, c'était de l'anglais. Vacuum cleaner, c'est l'aspirateur, non?
Non, c'est pas... Alors justement, commence par un petit quiz. Ça tombe bien pour vous mettre en jambe. Alors, est-ce que c'est une expression du visage qu'on voit chez les champions avant leur épreuve? Est-ce que c'est une méthode pour évacuer le stress avant la compétition? Ou est-ce que c'est un exercice pour renforcer sa ceinture abdominale ?
Moi, Philippe. Je vois bien le 2.
Moi aussi, Philippe. Il stresse.
Moi, je crois que c'est le 3.
Le Bravo, 3, Philippe. L'exercice pour renforcer sa ceinture ouais. abdominale.
Et il a raison. Il
comment
a raison,
comment est votre ceinture abdominale,
les... Non, moi, j'utilise les bretelles abdominales. Ouais.
Alors, quand même, pour vous expliquer tout ça, pour effectuer correctement ce mouvement, le vacuum, ou le vacuum, ou le vacuum, il faut rentrer le ventre...
Et vous allez dire le V, parce que sinon, ça va être
voilà.
très long.
Non, 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 mais je le dirai qu'une fois. Il faut rentrer le ventre et contracter volontairement les abdominaux tout en vidant tout l'air de ses poumons. Vous repoussez tout ce petit monde, le diaphragme, les organes vers le haut, comme si vous vouliez tout ranger sous la poitrine. Vous voyez, voilà. Et vous connaissez les différents exercices d'abdos en mouvement, avec en tête la position assise, la remontée du buste vers les genoux, ou alors allongée sur le dos, la remontée des jambes vers la poitrine, et beaucoup d'autres. Ces abdos-là classiques sont dits hyperpressifs. Et notre exercice du jour, donc le vacuum, lui, est un exercice hypopressif. Il permet de renforcer les abdominaux en douceur, en profondeur, grâce à une technique de respiration très spéciale. Cette pratique va cibler les muscles transverse, le transverse d'ailleurs, qui est le muscle profond des abdominaux, qui est situé sous le muscle grand droit de l'abdomen. Et le transverse, c'est le premier ministre du ventre plat. C'est lui qui permet d'avoir le bide bien ferme et bien plat. Donc
c'est une technique qui est bonne également pour les femmes après l'accouchement, par exemple.
Il n'est pas conseillé aux femmes enceintes, hein, en revanche. Mais il est excellent pour celles qui viennent d'accoucher, effectivement. Muscler son transverse aura un effet positif sur le périnée et l'abdomen. Cela permettra de lutter contre la diastase post-grossesse, Michel.
Alors ça demande diastase. Une explication un peu scientifique. La diastase abdominale, c'est un écartement ou une séparation longitudinale des deux parties qui constituent le muscle principal du ventre, de la paroi abdominale, appelé rectus. J'ai bien dit rectus de l'abdomen.
Exactement. Il est bon, hein, vous avez vu.
Non, mais ce que vous dites est frappé au coin du bon sens. Quand on fait des exercices abdominaux, il faut toujours rentrer le ventre. Sinon, on les muscle, mais ils ressortent. Donc, on peut avoir des très beaux abdominaux sortants.
Exactement.
Et ça s'appelle un bide.
Ça s'appelle un bide. Le chat ne fait pas beaucoup d'abdos, apparemment, hein, si on en juge par sa morphologie.
Non, en gymnastique intellectuelle uniquement.
Et c'est beaucoup d'énergie. Donc. Alors, c'est également un exercice qui est idéal pour pratiquer quand on veut renforcer ses abdos avec pour une grande perte de poids. Il y a quatre phases dans le vacuum. On commence par une expiration. On vide tout l'air présent dans les poumons en poussant fort le nombril vers la colonne vertébrale, en contractant les abdominaux. Philippe, vous avez raison. La deuxième phase, c'est l'apnée respiratoire. Vous coupez tout pendant 10 à 30 secondes, suivant votre niveau. Donc vous restez comme ça, tout en contractant les abdominaux au maximum. La troisième phase, c'est une inspiration. Vous regonflez les poumons, mais en gardant les abdos contractés et le ventre serré. Et enfin, la dernière phase, une respiration. Vous reprenez votre souffle petit à petit et hop, vous reprenez. Vous faites ça pendant 10, 15, 20 minutes, suivant votre niveau. Et vous allez voir que vous allez avoir le ventre tout dur. Ça marche très bien.
Ça ressemble un peu à la respiration du Pilate, non ? C'est un peu ça ?
Ouais, et puis
il y a une position particulière.
Alors, c'est pas comme le Kama Sutra.
Là, c'est le Kama Sutra de Coach Kiki.
Alors, il y a que quatre positions, hein, debout à genoux, à quatre pattes, allongé sur le dos ou encore assis sur une chaise.
C'est bien ce qui me semble.
J'irai pas plus loin. Voilà, la technique donc du vacuum est aussi très bonne pour la posture et l'équilibre, le renforcement du périnée, on l'a dit, la tonification et le renforcement du plancher pelvien. Elle permet une nette diminution du risque de descente d'organes, un meilleur contrôle de l'incontinence urinaire. Ça lutte contre l'anxiété et le stress parce qu'on fait des mouvements respiratoires et ça, c'est très bon. Et enfin, ça protège le dos et les lombaires grâce à la tonification de ce fameux muscle transverse. Donc, voilà, magnifique. Ouais. Non,
on est conquis, non, Philippe?
Ah oui, oui.
Moi, j'ai des abdos sans bouger.
J'ai pratiqué cette gymnastique pendant son explication et je m'en sens déjà beaucoup mieux.
Je vais mourir.
Une question que personne ne vous a jamais posée, Philippe.
Ah.
Vous avez un chat?
Écoutez, ça, je peux pas répondre, c'est ma vie privée. Non, j'en ai eu beaucoup dans ma vie, mais plus pour l'instant. Parce que voilà,
on peut pas en avoir deux.
Vous n'êtes pas allergique au moins?
Non. Mais j'ai un petit-fils qui l'est, donc je dois éviter.
Le petit-fils de Philippe Gueuluc est allergique au chat, le pauvre. C'est terrible. Non, je peux pas me moquer. Je peux pas me moquer. Non, c'est pas malin. On a le temps pour des petites brèves, petites insolites.
Moi, je voulais vous proposer un quiz en mode question pour un champion. Vous êtes prêts?
Allez-y, c'est parti.
Ok, je lance le top. Je suis une technique utilisée pour la première fois en 1964 par un certain Yann Donald. Pour la première fois dans une application humaine et sanitaire, car mon origine remonte quelques 50 ans plus tôt, lors de la Première Guerre mondiale, pour détecter des sous-marins ennemis en mer du Nord.
Échographie.
Yeah.
Ouais. c'est pas très compliqué.
Philippe allait le dire. Hein, mais ouais.
Sorte de sonar, j'envoie des ultrasons qui se heurtent à un obstacle et reviennent à leur point de départ. J'ai ainsi permis de montrer le contenu de l'utérus et j'ai révolutionné la pratique obstétricale.
Et ben voilà. Ouais.
J'allais dire radar, mais c'était...
Ah oui, moi j'ai bien fait de répondre avant vous. Alors. Patrice ou Christophe?
Ouais, moi j'ai un médecin qui, la patiente arrive et elle est habituellement sous cléridium, qui est ce médicament pour favoriser la dilatation des artères et fluidifier le sang. Et donc le cléridium, et elle dit au médecin, dites donc docteur, vous auriez pas oublié de me remettre mon clitoridium? C'est là qu'il est bon. Regardez. Non,
parfois le silence parle plus, Philippe. On termine avec Patrice.
Alors bébé vient de naître, faut-il laver son linge à part?
Le linge de bébé?
Ouais.
Bah non, pourquoi?
Ah oui, attendez, quand peut-être. Il vient de naître, il n'a pas de linge, il n'est pas habillé.
Non, il est nourrisson.
Non, oui.
Ah d'accord.
Un bébé est arrivé dans la famille.
Oh, qu'est-ce qu'on fait avec son linge? Avec des petites chaussures vernies.
Est-ce qu'on le mélange avec nos chaussettes ou pas, quoi?
Non, oui.
Moi, je dirais à part. Moi,
ouais, moi aussi. Ouais,
voilà. Là, c'est encore Emma qui a raison, comme d'hab. Il n'y a aucune obligation de laver le linge de bébé à part.
Oui, c'est ce que j'ai dit.
Est-ce que vous avez dit aussi, Michel?
Non, il n'a pas dit ça.
Sauf quand même si un autre membre de la famille est malade. Et une chose importante, cependant, utiliser de la lessive sans adoucissant parce qu'il arrive que la peau de bébé ne le supporte pas.
Et voilà, comme nous on le fait avec adoucissant, j'avais raison. Merci Patrice.
Il est d'une mauvaise société.
Je rappelle que vous pouvez aller voir 20 sculptures monumentales du chat exposées sur les Champs-Élysées jusqu'au 9 juin. Après, il y aura un Tour de France. De magnifiques et très imposantes sculptures de Philippe Gueluc. Et puis son album chez Casterman, Le chat déambule, avec en couverture, fais gaffe où tu tapes. Je pense que c'est Philippe, c'est vous qui êtes.
Oui, c'est moi qui suis représenté face au chat qui est en danseur.
Qui est en danseur, et vous avez un maillet et un marteau, dans la main, qui peut effectivement déraper. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir accepté de venir nous rendre visite. Et n'oubliez pas le Kamasutra selon Coach Cricri. Et puis surtout, on vous retrouve dimanche prochain à 9h15 avec toujours cette merveilleuse chanson de Sacha Distel.
La belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème.
On vous retrouve dimanche prochain à 9h15 avec toute l'équipe de l'Hebdo. Merci beaucoup Philippe Gueluc et passez une super semaine.
Bonne semaine.
Bon dimanche.
Au revoir.
RTL,
ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
L'Hebdo.